Donne-nous d'être aujourd'hui, demain et les jours qui viennent, des terres préparées pour que tu puisses y déposer ta parole. Garde-nous, Seigneur, de laisser des pierres, des ronces, l'indifférence à ta volonté, voire la désobéissance. Empêcher ta parole de transformer nos vies. Parce que ta parole est vive. Elle est vivante. Elle n'a pas d'autre objectif que de nous transformer, de nous rendre semblables à toi. Et c'est ce que nous voulons, Seigneur. Devenir semblable à Christ aujourd'hui. Amen. Amen. En lisant le verset que j'ai choisi pour partager ce matin la parole du Seigneur, certains vont certainement se dire encore. Ah ben, oui, encore. Cette parole, c'est Éphésiens 4, 11 et 12. Encore. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Depuis que j'ai 15 ans, j'entends citer, lire, répéter ces deux versets, ces trois versets, et ces versets qui sont, je dirais, comme un étendard pour l'Église apostolique depuis le réveil du pays de Galles dans les années 1905-1906. Je me suis converti quand j'avais 16 ans et demi, et depuis l'âge de 16 ans et demi jusqu'à 63 ans, je suis dans l'Église apostolique. Dans les années 80-81, j'ai eu par une direction de Dieu, je crois que c'est ça. J'étais jeune, j'avais 23-24 ans, j'ai participé aux séances de la Fédération protestante de France avec toutes les grandes figures du protestantisme qui étaient là dans une commission qui s'appelait la commission de connaissance mutuelle qui visait à rassembler les églises qui voulaient rentrer dans la Fédération protestante de France. Et à l'époque, elles étaient assez nombreuses parce que c'était une période où les églises évangéliques étaient sujettes à beaucoup de critiques, de doutes de la part des autorités et de la population. Donc, beaucoup essayaient de rentrer à la fédération. Et moi, j'étais un des représentants des églises qui étaient à la fédération et qui accueillaient, écoutaient, etc. Et j'étais avec ces grandes figures. Et puis, quand on se retrouvait avec les grands protestants comme ça, les Taubois, tout à coup, je réalise les André et Jules Taubois. Ça dit quelque chose. C'est de la famille de Yaël et de David. J'étais là. Moi, j'étais un petit jeune. Je les voyais. Et puis, avec une présence, une autorité spirituelle. Et puis, on faisait un culte tous les matins en début de réunion. Et un jour, c'est un ancien de l'église de Paris qui s'appelait Roger Vercellino, qui était un cadre ingénieur de la SNCF, membre de l'Église apostolique, et c'est lui qui a porté la méditation. Il a lu un texte, je ne me souviens plus du texte, mais en tout cas, la première phrase qu'il a prononcée dans sa méditation face à cette illustre assemblée, c'était de dire « Je rends gloire à Dieu de ce que je suis dans la meilleure de toutes les églises qui sont sur la surface de la terre » l'Église apostolique, et donc celle de Paris. Moi, j'étais là, je dis, oulala, comme entrer en matière, c'est osé, c'est même un peu risqué. Peu le connaissaient. Je disais, comment il peut dire cela? Et il a prononcé ces paroles-là avec une assurance, avec une foi. Et il a rajouté en regardant tous les autres. Et j'espère que vous pensez la même chose de l'église dans laquelle Dieu vous a placé. Elle dit, bon, là ça va mieux. Et il a développé son idée. Alors, moi je suis dans l'église apostolique, j'en ai pas connu d'autres. Enfin si, j'ai eu une petite période où j'étais hors église apostolique, mais on m'a réaccueilli après, donc avec Francine. Mais je n'ai connu que cette église-là avec ce verset, ces versets d'Éphésiens 4, 11, où les mineurs qui ont découvert Christ ont été aussi visités par Dieu pour que ce mouvement de l'esprit puisse se construire et construire l'église dans le pays de Galles. Et ça a été pour eux une découverte de ce verset où Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Alors on pourrait dire, ils ont reçu cette révélation d'Éphésiens 4, 11. Et c'est ce que, quelques dizaines d'années après, en Europe et en France notamment, nous avons cru, pensé, que c'était la révélation des ministères. J'ose dire aujourd'hui, et depuis bien longtemps maintenant, que la révélation n'était pas sur la révélation des ministères, mais sur la révélation de « Il a donné des ministères pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ. » Les ministères n'ont aucun intérêt. Et les hommes qui ne sont que ancrés dans une idée de ministère, en disant « C'est la révélation de Dieu », j'ose dire aujourd'hui qu'ils sont à côté de la révélation de Dieu. Tout don de ministère n'a pas d'autre objectif que le perfectionnement des saints, l'œuvre du service et l'édification du corps de Christ. C'est-à-dire qu'ils sont donnés pour l'Église. Donald G., qui était un homme qui, au milieu du siècle, a réfléchi justement à la dimension de l'Église et des ministères, disait « Les ministères, c'est des cadeaux que Dieu fait à l'Église. » Mais il les fait pour que l'Église puisse être bénie, puisse grandir. Se glorifier d'une étiquette de pasteur, d'évangéliste, d'apôtre, de docteur, de prophète, ça n'a aucun intérêt. Dieu fait des cadeaux pour que l'Église en profite. J'étais dans une réunion, il y a de cela une vingtaine ou une trentaine d'années, où l'Église apostolique de France se posait des questions sur son devenir, sur sa vision, et avait fait venir deux pasteurs qui étaient d'Angleterre et qui avaient traversé des moments aussi difficiles que l'Église apostolique. Et l'Église apostolique disait, dites-nous comment vous avez relevé la tête, comment Dieu a relevé l'Église. Et nous étions, je me le rappelle, à l'heure du midi, sous un hall, tous les pasteurs de l'Église apostolique de France et ces deux pasteurs, et ils ont expliqué comment Dieu les avait visités, comment ils avaient été convaincus du péché dans lequel ils vivaient en étant dans des positions qui n'étaient pas acceptables, et comment ils s'étaient repentis, et comment ils avaient vécu le pardon entre eux. Et là, Dieu a relevé et leur vie, et leur ministère, et l'Église. Et après ce temps de témoignage qui a duré une petite demi-heure, il y a eu un silence, et puis tous les pasteurs français se regardaient en se disant, mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Cela me semblait un petit peu évident. Et les frères anglais ont terminé en disant, après cela, nous avons vu des hommes qui ont été appelés, qui ont répondu à l'appel de Dieu pour être pasteurs, prophètes, apôtres, docteurs, évangélistes. Et la question a retenti au milieu des Français, qu'allons-nous faire ? Et quelqu'un a pris la parole en disant, c'est simple. Il faut installer des prophètes, des apôtres, des pasteurs, des docteurs, des évangélistes. Et moi, on était sur des bancs en bois, en cercle, et je n'ai pas pu retenir ma réaction. Et j'ai montré ma désapprobation de cette réponse. Et là, le frère anglais m'a pointé du doigt, il me dit, il y a un frère là, il l'a dit en anglais, hein, il y a un frère là qui n'a pas l'air d'accord. Puis alors, les autres pasteurs m'ont regardé, ah bon, il n'est pas d'accord. Est-ce que tu peux dire pourquoi tu n'es pas d'accord, m'a dit le pasteur anglais. Je crois que dans la réponse que nous donnons à votre témoignage, nous faisons un raccourci abyssal. Nous voulons faire l'économie de la repentance, l'économie du pardon, l'économie de la conversion, en pensant qu'en installant des ministères, nous allons résoudre notre problème. Il y a eu un grand silence. Et là, le pasteur anglais m'a dit, je suis tout à fait d'accord. Donc je dis, ouf, je ne suis pas trop à côté de la plaque. Dieu a donné et a appelé des ministères, mais n'ont aucune importance si ceux qui sont dans le ministère sont là pour avoir une étiquette. Quand j'étais au collège biblique, on a demandé à celui qui est maintenant le pasteur de l'église de Genève, je vous ai souvent raconté cette histoire, les cuisines, on travaillait pendant l'été pour payer notre collège, et puis on faisait de tout, parfois des choses où on n'était pas compétent. S'ils avaient demandé à Michel, ça aurait été mieux, mais Christian, qui est le pasteur de Genève, et moi, les cuisines nous ont demandé d'aller chercher des pommes de terre dans les champs, pour le repas de l'ensemble du collège et de ceux qui étaient là. Et nous, on est bien obéissant, on a dit oui, d'accord. Et puis on est allé dans le champ à côté du collège pour aller ramasser les pommes de terre. Puis on était devant le champ. Moi, je suis un citadin qui a vécu toute sa vie dans une cité HLM. Et Christian, c'est un genevois. Je crois qu'il n'a pas vu un champ de patates de toute sa vie jusqu'à ce qu'il vienne au collège. Puis on était là, on se disait, mais tu sais à quoi ça ressemble, un plant de pommes de terre? Je dis non. Et toi, ben non. Alors, comment on va faire? Et puis, il a eu cette réponse toute simple. Il dit, on va tirer sur tout ce qui dépasse, puis on verra ce qu'il y a en dessous. On a bien dû tirer sur au moins 4 à 5 plants qui étaient là, au milieu du champ, avant de tirer sur une où tout à coup, on a vu apparaître des plants de pommes de terre. On s'est dit, vous savez quoi? On va tirer sur toutes les feuilles qui ressemblent à ça. C'est une bonne méthode. Les ministères où les hommes et les femmes qui veulent répondre à un service de Dieu, il faut tirer dessus pour voir ce qu'il y a en dessous. Quel fruit il y a? L'étiquette, quand je vais au travail, vous savez, j'ai identito-vigilance oblige à l'hôpital, j'ai mon badge, et puis il y a mon nom, et puis ma fonction. Mais l'étiquette, quelqu'un peut prendre mon badge, le mettre, pour autant ça n'en fera pas le directeur de l'établissement. Ce n'est pas parce que j'ai une étiquette de pasteur, de prophètes, d'apôtres. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Qu'est-ce qu'il y a comme fruit? Alors, Éphésiens 4.11, c'est bien. Donald G. il disait, les ministères, c'est ce cadeau que Dieu a donné à l'Église. Mais il l'a donné dans un objectif précis. Et le premier dont il est parlé, il y en a trois au moins, objectifs dans Éphésiens 4.12. Un, c'est pour le perfectionnement des saints. Le perfectionnement des saints. Qui a envie de se perfectionner aujourd'hui? 1, 2, 3. Il y a une sœur, elle est là. Moi. Mais je ne veux pas le montrer trop aux autres, ça serait orgueilleux. Allez, moi je veux me perfectionner. Ouais, quand même. Quelques-uns. Alors peut-être qu'on peut considérer qu'on n'a pas les dons et les capacités pour se perfectionner. On peut considérer que notre temps est passé. Il me reste deux mois de travail dans mon établissement. Après, j'arrête. Donc, je vais arrêter de me perfectionner. Mais je le dis avec sérieux, il y a des formations que je suis en train de mettre en place et je dis, je ne vais pas aller faire cette formation-là alors que je ne pourrais pas l'appliquer. Ça peut se comprendre. Mais est-ce que dans la vie avec le Seigneur, on peut dire à un moment donné, non, je ne suis pas capable, je ne peux pas, je n'ai pas les compétences. Ou qu'est-ce que les autres vont penser si je me transforme ou je vais dans un sens de transformation et de changement. Hein? C'est Paul qui écrivait aux Corinthiens en disant « Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts, et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. » Si on lit ce texte-là, on a l'impression d'entendre que finalement, Paul dit « Je suis faible, vous, vous êtes fort, mais ce qu'on demande, c'est que vous vous perfectionnez. » Donc, je vais peut-être faire lever la main. Non, je ne vais pas le faire. Qui est fort ? À ce moment-là, vous êtes destiné à vous perfectionner. Puis les faibles, basta, tant pis, on fait avec. C'est pas dans ce sens-là qu'il faut le lire. Le perfectionnement, c'est un renforcement. Le mot grec, c'est katartisis. Être capable de se renforcer, de perfectionner son âme, pas là-haut seulement, savoir, son âme, son être, son cœur, ses émotions, se redresser, restaurer, s'entraîner. Moi, j'aime beaucoup cette notion dans le terme grec, c'est s'entraîner. Est-ce que vous vous entraînez souvent pour vous perfectionner ? Alors, comment est-ce qu'on s'entraîne ? Moi, ça a été souvent ma question sur des points. Je suis très autodidacte dans toute ma vie, dans tout ce que je vis. Donc, j'essaye de comprendre, mais je n'ose pas aller demander à des pros ou à des habitués, etc. Mais s'entraîner, avoir une discipline et suivre des instructions pour. J'ai pris une décision il y a quelques années de ne plus apprendre de nouvelles choses. Et je m'y tiens, c'est une règle de vie. Il y a des choses, j'ai décidé de ne plus les apprendre. Alors pourquoi ? Parce que je considère que je ne vais pas m'engager dans quelque chose de nouveau si je n'ai pas le temps de m'améliorer durablement dans ce que je vais apprendre. Vous en pensez ce que vous voulez. Mais il y a des choses, je dis, c'est terminé, je ne ferai pas. Pourtant, j'en ai envie. J'ai décidé de ne jamais faire de ski. Parce qu'on va en Suisse, mais quand on y va, il n'y a pas de neige. Ou quand il y a de la neige, je me dis, le temps que je commence à apprendre. Alors je dis, mon intérêt, c'est quand je fais quelque chose, d'avoir de la marge de progression et le plaisir d'améliorer ce que je vis. Alors je ne ferai jamais de ski. J'apprendrai pas de nouvelles langues. J'ai envie d'améliorer ce que j'ai. Quand Michel a quitté le collège, je me souviens, c'était un engagement, Catherine, tu es témoin, il a dit, en quittant le collège, je ferai une heure de grec et d'hébreu tous les jours. Et quand il est parti à la retraite, il a dit, je vais me mettre au grec et à l'hébreu. C'est vous dire son souci de s'améliorer. Je pense que je vais, en tout cas, suivre son exemple et son modèle, mais à la retraite, je travaille un peu le grec et l'hébreu, donc je vais continuer à développer cela parce que j'ai des bases. Mais je ne vais pas apprendre l'italien comme Jeannot, peut-être améliorer l'anglais dont j'ai des bases, mais pas commencer quelque chose si je n'ai pas le temps de m'améliorer. Je ne ferai pas de deltaplane ou de parapente, et pourtant c'est une chose qui me passionnerait. Mais je me dis, je n'ai pas le temps. Donc je vais améliorer ce que j'ai. C'est déjà une bonne chose que de se dire, je vais améliorer ce que j'ai reçu et ce que j'ai reçu de Dieu. Et là, on rentre dans une attitude de vie qui est importante. C'est d'aller à la rencontre de soi et de chercher ce que l'on a reçu comme don, comme capacité, comme compétence, mais aussi comme faiblesse. Et à partir de là, de perfectionner, comme le dit l'apôtre Paul aux Corinthiens, ce que nous avons. Et plein de choses sont là dans notre vie, dans notre existence, pour nous empêcher de faire cette démarche-là. La peur, la crainte, le souci du regard des autres, les priorités que nous donnons à notre vie. Certains ne cessent pas de nous parler pour que nous revenions à nous-mêmes et à la relation. Une place devant ce qu'il a racheté et il nous rend responsable de notre perfectionnement, de notre évolution. Ce que je veux, c'est votre sanctification, dit l'Écriture. Oui, mais la sanctification, c'est comment changer, progresser, se perfectionner pour être de plus en plus semblable à Jésus, à Christ. Et il y a ça en nous. Qui veut se perfectionner ? Aujourd'hui, maintenant. Il y a des profs qui sont ici, dans la salle. Il y en a une, en tout cas. Oui, il y en a deux. Il y en a un qui manque, mais il y en a. Vous imaginez, il y a elle qui va travailler, et puis la personne dont elle s'occupe lui dit « Non, non, moi, je ne veux pas aller plus loin. J'arrête là. » La première réaction qu'il pourrait y avoir, c'est Yaël qui se dirait « Mais alors, à quoi je sers si tu fais ça ?» Pareil. Si un élève dit « Mais alors, à quoi je sers si je suis à tes côtés ? C'est mon rôle. » Et vous savez, je crois que Dieu se dit la même chose. « À quoi je sers dans ta vie si tu ne veux pas changer ?» Être transformé, te perfectionner dans ce que tu es, aujourd'hui et maintenant. Donc, je ne ferai pas de parapente. Mais est-ce que pour autant je suis prêt à laisser la pensée de Dieu s'accomplir dans ma vie ? Dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul dit « Ne te conforme pas au siècle présent, mais sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. » Je n'ai pas d'intelligence, Seigneur, donc ça ne me concerne pas. « Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Pour qui bon, agréable et parfait ? Pour le pasteur. Plus vous changerez, plus le pasteur sera content. Et plus il pourra se dire « Ah, je suis un bon pasteur. » Non, ça n'a rien à voir. Pour que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait pour vous, pour moi. C'est cela la pensée. Dieu n'est pas là en disant, je ne veux pas tenir compte de ce que tu veux, mais ce que je veux, dit Dieu, c'est que tu deviennes et adviennes ce que j'ai déposé en toi, comme une graine, comme une semence, afin qu'elle advienne et qu'elle porte des fruits, que tu deviennes ce que tu es. Est-ce que je le veux, cela ? Est-ce que je veux rentrer dans cette forme de transformation ? Le renouvellement de l'intelligence dont il est question ici, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est la première étape du changement dans la pensée de Dieu pour nos vies. C'est-à-dire que nous arrêtions de croire, d'avoir des croyances sur nous-mêmes et même sur Dieu qui ne soient pas justifiées. Soyez transformé. Sois transformé, Jean-Marc, dans le renouvellement de ton intelligence. Ce que tu penses, accepte de le remettre en cause. De ne plus dire, comme je le dis souvent, c'est comme ça, ça ne changera pas. Je suis comme ça, ça ne changera pas. Les circonstances de ma vie ont fait que je suis aujourd'hui là, ça ne changera pas. Sois transformé dans le renouvellement de ton intelligence pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse et que ce qui est bon, agréable et parfait, pas à Dieu, mais à toi, puisse s'accomplir. Nous empêchons ce qui est bon, agréable et parfait d'advenir dans nos vies à cause de nos positionnements. Et ce que Dieu veut, c'est que notre intelligence soit renouvelée pour que nous découvrions cette possibilité qu'il y a en nous et en Dieu que les choses nouvelles soient. Ah, nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme le Seigneur l'Esprit. Nous tous qui le visage découvert... Je ne sais pas si vous avez lu ce verset. C'est une expérience que je pose souvent aux patientes du centre, quand elles sont dans le déni de ce qu'elles sont, dans l'abattement, voire dans la dépression, et qu'elles ont fait du chemin, je leur dis, mais remerciez, mais qui vous allez remercier du changement que vous vivez ? Alors souvent, elles disent, oh ben, le médecin, la psychologue, de temps en temps le directeur. Mais je dis, non, montez dans votre chambre. Parce que là, vous avez la réponse. Eh bien, bon. Et oui, vous rentrez dans votre chambre, il y a 8 mètres carrés. Alors déjà, elles ne vont pas se perdre. 8 mètres carrés, et là, vous allez au fond à droite ou au fond à gauche, et là, il y a un lavabo. Et au-dessus du lavabo, il y a un miroir. Mettez-vous devant le miroir, et là, face à ce miroir, dites merci à la personne que vous voyez. Il y en a certaines qui le font, elles sont assez étonnées de cette expérience. Mais ici, le verset dit « Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir. » Quand on se met dans un miroir, vous savez, moi, je vois rarement le Seigneur. Très souvent, le matin, quand je me rase, c'est moi que je vois. Je ne pense pas être président pour autant, mais je me vois. Nous sommes transformés de gloire en gloire. En fait, quand je regarde dans le miroir, un peu comme David, je peux dire « Merci Seigneur de ce que tu as fait de moi, une créature si merveilleuse. » Parce que dans le miroir, il y a la gloire de Dieu manifestée sur ce que je suis et ce que je vis. Est-ce que je peux le voir, cela ? Être reconnaissant vis-à-vis de ma personne en disant « Merci d'avoir osé renouveler ton intelligence, rentrer dans de nouvelles dimensions. » Et puis « Merci Seigneur de m'avoir conduit par ton Esprit Saint. » Là-dedans. Lorsque il est parlé de perfectionnement, mais aussi de transformation, dans les textes que nous avons lus, le mot grec, c'est « métamorphose » qui est utilisé. Métamorphose. Ah, c'est quoi la métamorphose ? C'est le changement de forme, de nature ou de structure si importante. Je suis allé la chercher, cette définition. Alors écoutez-la et notez-la. Hein, je ne vais pas y revenir. Changement de forme, de nature ou de structure si importante que l'être ou la chose qui en est l'objet n'est plus reconnaissable. Ça, c'est le changement, c'est la transformation que Dieu veut accomplir dans notre vie. J'ai plus de 40 ans de vie avec le Seigneur, je dois être à 47, 48 ans. Si je regarde, il y a eu de la métamorphose dans ma vie. L'individu que je suis aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celui qui était là à 16 ans et demi quand il a pris conscience de qui était Jésus-Christ et que pouvait être Jésus-Christ dans sa vie. C'est un changement de forme. Certains diront, il n'a pas gagné au change. Mais il y a eu un changement de forme, mais aussi de l'être intérieur. Un changement aussi de structure intérieure. Toutes mes convictions passées quand j'étais jeune ont volé en éclats quand j'ai été confronté à l'œuvre que le Saint-Esprit a accomplie. Il a changé toutes mes croyances qui limitaient ce que je pouvais être et devenir. Ça a explosé la structure interne de ce que j'étais avant Christ a explosé. Un changement de forme, de nature, ah oui, alors la nature, ma nature a été transformée parce que j'étais un être seul, isolé, perdu, paumé, et je suis devenu un enfant de Dieu. Wow. Un héritier de Christ. Vous savez, quand vous vivez en HLM, dans une cité, dans ces grandes cités, et qu'il n'y a aucune perspective qui ne soit possible ou envisageable, et que vous découvrez, en écoutant la parole de Dieu, que vous êtes à ce moment-là héritier de Christ, cette parole vivante qui a créé l'univers tout entier. Moi, je suis héritier de lui, de cette parole vivante, de ce logos qui a créé la terre, l'univers. J'aurais pu aspirer à être héritier au moins de mes parents, mais ils n'avaient pas grand-chose. Ils ont plus laissé de dettes que d'héritage. Héritier de quelqu'un. Je me disais, quand je me suis marié, j'ai appris que ma femme avait un parent très éloigné aux États-Unis. Ouais, je vais être honnête, je me suis dit, c'est peut-être quelque chose qui va arriver miraculeusement. Un jour, cet oncle d'Amérique, ce tonton d'Amérique, ou je ne sais pas quel était son degré, mais un parent éloigné, etc. Ou en Suisse. Hein. Là, même l'Amérique, il y a la Suisse. Hein. Aussi. Peut-être qu'il va y avoir un héritage qui va tomber. Ce n'est pas le plus important. Mais héritier de Christ, co-héritier de Christ, est-ce que vous avez ce changement de nature qui s'est opéré dans votre vie quand vous avez pris conscience d'appartenir à cette filiation, co-héritier de Christ, en Dieu, mon héritage est assuré. Alléluia. La métamorphose, c'est cette transformation, peut-être cette transformation qui a fait que Christ n'a pas été reconnu par les femmes au matin de la résurrection. Il était métamorphosé. Pourtant, ils avaient vécu avec lui pendant 3 années, marchant, mangeant, dormant à proximité. Elles étaient dans le jardin de Gethsémane, elles ne le reconnaissent pas. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y avait eu cette métamorphose du Christ ressuscité? Est-ce que ce n'est pas cette métamorphose qui rend Joseph, dans la Genèse, non reconnaissable par ses frères lorsque ceux-ci font face au premier ministre d'Égypte? Ils ne le reconnaissent pas. C'est leur frère. Ils n'arrivent pas à imaginer que c'est le puits, la boue et la fange où ils ont jeté leur frère qui a enfanté ce prince d'Égypte. Ils ne l'ont pas reconnu. Moi, j'ai un peu le sentiment que ce que j'ai cru être des épreuves discriminantes pour ma vie à venir, ce que j'ai vécu était totalement négatif. Aujourd'hui, dans ma vie en tout cas, je reconnais que ce qu'ont été ces épreuves semblables au puits de Joseph m'a fait accéder à une vie que je ne pouvais pas imaginer. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que c'est cette métamorphose que nous avons connu en rencontrant Christ aujourd'hui? Est-ce que c'est cette métamorphose à laquelle doivent être confrontés notre famille, nos amis, ceux qui nous fréquentent au quotidien et qui disent « mais il et elle n'est plus semblable à ce que nous avons connu ». C'est une métamorphose que veut accomplir Dieu dans nos vies. Ce n'est pas du bricolage ou du maquillage. Longtemps, au centre, j'étais réfractaire à l'idée d'un atelier maquillage. Je dis, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va leur apprendre à masquer, à poser, à apparaître ou à apparaître. Puis bon, on a creusé la chose et on a pu mettre des choses en place qui avaient un vrai sens au niveau thérapeutique. Mais ce que Dieu veut faire et ce que nous avons à vivre, ce n'est pas de nous maquiller pour être bon visage de chrétien le dimanche matin. Alors même sous le masque, maintenant, il n'y a plus besoin de sourire. Donc on peut faire l'économie du sourire en tant qu'enfant de Dieu, c'est bien. Hein, mais paraître ou être semblable à des chrétiens, non. Le maquillage, ce n'est pas ce que Dieu veut. Quand j'avais 15 ans, je faisais 2 heures de route à pied pour aller à mon collège. Et j'ai tarabusté ma mère pour avoir un vélo. Et ça a été long, ça a été dur. Et j'ai un voisin qui vendait un petit mi-course Peugeot blanc, 2 étages au-dessus. Alors ma mère a dit, bon, je vais les voir. Et puis elle a négocié. Et puis elle a dit, c'est bon, tu as ton vélo. Alors, j'avais plus de 2 heures de route à pied pour aller, venir, pas chaque jour. Pas le moyen de manger à la cantine. Donc, j'avais un vélo. En 10 minutes, j'arrivais à la maison. 10 minutes, j'arrivais à l'école. Jusqu'au jour où mon vélo a été volé. Alors, je suis reparti à pied pendant plusieurs semaines. Puis un jour, sur le chemin qui me permettait de couper la route pour aller au collège, je rencontre le meilleur copain de mon frère. Monté sur un vélo, vert. Je le regarde, je discute, tout, puis je regarde le vélo, puis je dis, bizarre. Mais tu sais que ce vélo, il ressemble beaucoup au mien. Elle me dit, ah, je sais pas, moi, c'est ton frère qui me l'a vendu. Puis je regarde le vélo attentivement, il était maquillé. Mais c'était mon vélo. Je l'ai récupéré, et je peux vous dire que le soir, nous eûmes une conversation et une imposition des mains avant d'être chrétien, entre mon frère et moi. Est-ce que nous voulons de cette vie-là, d'une transformation en apparence, en superficielle, ou est-ce que nous voulons être métamorphosés? C'est ce que les ministères ou le service dans l'Église doit apporter à chacun. La possibilité, les ministères ne sont pas là pour autre chose que de permettre à chaque enfant de Dieu de vivre une métamorphose et un perfectionnement et une transformation. Et puis la deuxième étape, c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'offre du service. Le service. Alors ça y est, vous pouvez vous dire, bon, en fait, ils voulaient en arriver là pour nous enrôler, nous embaucher, nous faire travailler. Pas du tout ça. Le service dont il est parlé ici, dans le grec, c'est le verbe ergon. Et c'est en fait ce qu'on a en ergothérapie, par exemple, le travail. Et il est dans ce verbe question à la fois d'emploi, ce à quoi chacun est employé, mais aussi de ce que chacun a à entreprendre et à faire en fonction de ce qu'il est. Et d'ailleurs, l'œuvre du service, c'est ergon et diaconia. C'est pas comme dans certaines traductions, en vue de l'œuvre du ministère. Alors, tout de suite, on va se dire, ah ça y est, on veut me faire entrer dans un ministère. Non, c'est le service très concret, le diaconat. Et pour moi, ça rentre dans cette idée de l'Ecclésiaste qui se disait, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Et moi, j'aime bien cette expression-là, cette traduction. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. En fait, le perfectionnement, c'est pouvoir devenir ce que l'on est et de pouvoir porter des fruits pour que l'édification soit à la fois l'édification de ma vie, de ce que je suis, que ce que je porte en moi produise des fruits qui me correspondent. Parce que si je demande à Michel, écoute, dorénavant dans l'église, tu t'occuperas de toutes les voitures des membres de l'église pour les réparer, les réviser, etc. Je ne suis pas sûr que vous soyez très satisfait. Mais si il intervient dans votre jardin, comme il l'a fait chez Laurent et Elisabeth, en fonction de sa force et de ce qu'il a, eh bien là, cela peut porter du fruit. Quels sont les fruits? Alors les fruits, ce n'est pas forcément un travail, quelque chose que les autres décident, mais ce qui émane de moi et qui va m'épanouir, les fruits que je peux porter en vue de l'œuvre du service, du travail du service. Quel est le travail, je dirais, qui est en lien avec ce que tu es et ce que je suis? Faire avec sa force, pas par soumission, pas par amour de soi ou même par amour des autres, mais comme un cheminement qui me permet d'être et de devenir et d'exprimer ce que je suis. Dans cette expression, il y a avec ta force, mais la force dont il est question, le mot qui est utilisé là, c'est, on peut le traduire par force, et tenez-vous bien, en grec, ce même mot se traduit par faiblesse. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vérifié dans mon gros dictionnaire Bailly la traduction de ce mot. Eh bien, c'est koach. Eh bien, ce koach, c'est à la fois la force et la faiblesse. Et c'est tellement évident. C'est tellement évident parce que la force de quelque chose se calcule en fonction des limites de cette force face aux faiblesses. Un pont. Je regardais la construction du pont de Tancarville, ou non, pont de Normandie récemment sur une chaîne du câble, et c'était étonnant comment la force de cet ouvrage était calculée en fonction non pas de la résistance des matériaux, mais aussi de la faiblesse de l'environnement et même des matériaux. En fait, quand il est dit « tout ce que ta main trouve à faire avec ta force c'est ce que tu as en termes de compétences et de capacités, mais aussi les faiblesses que tu as qui sont les limites de cette force ». Donc il faut tenir compte à la fois de ta force et de tes faiblesses. Bien plus, j'oserais dire, que nos faiblesses sont aussi des révélateurs de ce que nous sommes et des forces que nous pouvons avoir. Il est étonnant de voir comment certaines faiblesses sont tellement utiles pour moi et pour les autres. Ne pas avoir peur de ses faiblesses, bien au contraire, les prendre en compte et considérer qu'elles sont un élément fondamental de la force avec laquelle je dois aller et vivre. Et puis le troisième point, à quoi servent ces ministères ? À la fois pour ce perfectionnement, pour ce service, mais aussi pour l'édification. Ah, s'édifier, c'est l'apôtre Pierre qui disait « Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » 1 Pierre 2, 5. S'édifier. Alors on parle facilement de l'édification de l'Église. Comment on construit, on bâtit ensemble l'Église. Et si on devait parler de cela sur des termes un petit peu techniques, on dirait que cette édification de l'Église, ça se fait selon des règles bien établies. Il faut qu'il y ait un solide fondement, de bons matériaux, un plan précis. En ce qui concerne l'Église de Christ, sa construction, elle est régie par les mêmes règles. L'architecte, c'est qui ? C'est Dieu. Le maître d'œuvre, c'est le Christ. Et l'agent constructeur, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui révèle comment bâtir. Alors on peut dire aussi que nous sommes des ouvriers, mais que le fondement, l'apôtre Pierre nous en parle, l'apôtre Paul aussi, le fondement c'est Christ. Quel est le fondement ? Moi j'aime beaucoup ce texte du livre d'Esdras où l'on voit les déportés qui reviennent, qui constatent la destruction des murs de Jérusalem, du temple, etc., et qui vont poser les fondements du temple. Et les dire, une fois qu'ils ont posé les fondements, il y a eu des cris de joie dans toute la ville, mais aussi des cris de pleurs des plus anciens qui avaient connu le temple et qui se remémoraient de ce qui était avant. On peut pleurer sur ce qu'était l'Église apostolique au début du XXe siècle, mais on peut se réjouir aussi de ce que nous posons ensemble aujourd'hui, là où Dieu nous a placés, mais sur un fondement qui est celui du Christ. Lorsque les ennemis commencent à attaquer les déportés, les anciens déportés, et puis Esdras et les ouvriers, ils n'ont pas commencé par mettre des portes, des verrous, des règles, etc., ce qu'on peut avoir humainement tendance à faire, y compris dans nos vies personnelles. Ils ont commencé par poser le fondement, par reposer l'autel sur ses fondations, et par offrir des sacrifices à Dieu, à la fois des sacrifices de reconnaissance, sacrifices de repentance. Où est l'autel de Christ dans nos vies lorsque nous entamons cette démarche-là de reconstruction, d'édification à la fois de l'Église. C'est cela qui me faisait réagir quand je disais en préambule des pasteurs qui disaient « il faut mettre des ministères ». Non, il faut que les fondements en nous soient les fondements de la repentance, de la conversion et du pardon. Le pardon reçu et accordé. C'est là que commence la construction de ma vie, de mon ministère, de mon service, de l'Église. Pas ailleurs. Édifier. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ, dit Paul aux Corinthiens. Alors, on pourra essayer de poser d'autres fondements dans nos vies. Et on le fait. Je le fais. J'ai essayé parfois de bâtir des choses sur des convictions, des croyances, des certitudes humaines. Et puis, ça a été l'échec. On a, avec Michel, construit une communauté de la paix, c'était son nom, pendant quelques années, mais on peut se poser la question sur quel fondement avions-nous décidé de bâtir ensemble cette communauté. Aujourd'hui, j'espère, je souhaite profondément que les fondements de cette Église, ce ne soit pas la personnalité d'un responsable ou deux responsables, mais que ce soit la personne de Christ, son œuvre, sa pensée, sa volonté. Et que si vous êtes ici, c'est parce que ce fondement-là est prioritaire, est essentiel. Alors s'édifier personnellement, c'est vraiment être dans cette logique. L'apôtre Paul dit que le corps, l'Église, forme un tout solide, bien uni par toutes les articulations dont il est pourvu, et où chaque disciple de Christ est exhorté à s'édifier. Le corps ou la maison forme un tout dont chacune des parties liées aux autres en Jésus-Christ est impliquée. Cette implication, c'est l'intercession, c'est un service concret. Qu'est-ce qui me correspond et qui est une source d'épanouissement pour moi? Ça peut être l'intercession. Ça peut être cultiver du lien fraternel. Souvent, on classifie les services en disant il y a ça, 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 ça dans l'Église. Mais il y a des choses, je suis certain, qu'on n'a pas explorées et qui sont indispensables et dont certains d'entre nous sont pourvus des dons et des capacités utiles pour l'Église. Et si c'est utile pour l'Église, c'est utile pour le monde dans lequel nous nous trouvons. Quels sont les dons, les capacités, les faiblesses aussi? J'ai terminé ce temps de méditation, mais vraiment, je crois que l'Église apostolique, c'est pour moi le lieu où j'ai trouvé mon épanouissement et ma vie avec le Seigneur et avec ceux que le Seigneur a placé autour de moi. Et je crois qu'il y a encore du travail à accomplir dans ma vie. Comme je crois qu'il y a encore du travail à accomplir dans l'Église. Et que nous sommes ensemble engagés dans cette œuvre. Je crois profondément que les ministères n'ont aucun sens, aucune utilité, s'ils ne sont pas là pour construire, bâtir, perfectionner les saints, édifier la vie de chacun, permettre cette édification. Ce ne sont que des fonctions, sinon. Mais si ce sont vraiment des cadeaux, et si chacun est un cadeau, parce que je crois que chacun est un cadeau pour l'Église, alors rentrons dans cette vision. Dieu, moi j'ose, quand je vous regarde, dire qu'il vous a donné à moi pour mon édification, pour mon perfectionnement. Il y en a certains qui me perfectionnent plus que d'autres, par leur parole, par leur attitude, par leur amour. On a des liens privilégiés, mais je crois qu'on est tous dans cette réalité du corps de Christ. Amen. Seigneur, le monde a besoin de ton Église, parce qu'elle est cette partie visible de ta personne qui permet d'annoncer ce si grand salut. Alors, Seigneur, nous te prions, je te prie pour que je sois véritablement capable de renouvellement de mon intelligence pour que ce que tu veux, toi, s'accomplisse, ce que tu as déposé en moi, en chacun d'entre nous, que cela puisse advenir, que j'aie ce courage de te laisser agir, que j'aie ce courage d'abandonner mes croyances pour que ton Esprit Saint édifie véritablement ma vie, notre vie. Je te prie, Seigneur, pour que cet espace, parce que ce ne sont pas ces murs qui sont en Église, c'est nous, que cette Église que nous sommes puisse être un témoignage de ta vie et de ta grâce. Que ta parole, Seigneur, trouve le chemin de nos cœurs. Amen. Amen.